Du bist nicht so. Passé quelque chose aujourd'hui.
C'est moi qui ai ouvert la salle. J'ai dit à Fabrice, je suis tombé de mon lit. Bon, aujourd'hui, on va commencer à 19h. Je dois partir avant, d'ici là. Bon, quand on aura terminé, on ne va pas courir, on va aller normalement. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse richement. Prions. Éternel, notre roi, notre Père céleste, c'est vrai qu'il n'y a personne dans le ciel qui soit semblable à toi, ni dans le ciel, ni sous le ciel, ni sous la terre. Il n'y a personne qui t'est comparable. Tu es le Dieu infini. Tu es le Dieu qui remplit l'univers. Tu sais tout. Ce qui se passe par ta préconnaissance, par, ô Dieu, par tes attributs merveilleux, rien ne t'échappe et tu as le contrôle de toutes choses. Tout se passe absolument selon ton plan. Les bonnes, les mauvaises choses, de toute façon, ce que tu as prédit qui arriverait, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Il y avait des guerres, il y avait aussi des bénédictions. Et toutes ces choses, tu as dit qu'elles arriveraient à chaque chose en son temps. Et ces choses respectent le timing. Tu n'es pas en retard. Les moqueurs disent, cela fait des années qu'on nous dit, il vient bientôt, où est la promesse de son avènement. Mais cela ne t'ébranle pas, parce que tu sais que cette parole ne reviendra jamais à toi sans avoir accompli ce dont pourquoi tu l'avais prononcé. Tu viendras certainement nous chercher. Oh, que dans ta grâce, tu nous trouves prêts, Seigneur. Aide-nous dans notre préparation. Tu as déjà anticipé cela en nous envoyant ce message pour que nous puissions éviter les pièges de cet âge mauvais, de ce siècle mauvais, de ce siècle difficile. Et par ta grâce, nous avons reçu ce message et nous t'en remercions. Car c'est toi qui nous as équipés pour reconnaître qu'il venait de toi. Nous te demandons, Père, de nous parler dans nos cœurs en ce jour, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, et de nous porter assistance, d'être notre soutien dans nos problèmes. Et pour nos bien-aimés qui sont éprouvés, nous pensons à notre sœur Henriette, que tu la consoles. Ô Dieu, que tu sois avec elle là où elle est, que tu consoles la famille. Pour tous ceux qui ont besoin de ton aide, que tu te souviennes d'eux. Ô Dieu, nous avons tous besoin que tu nous aides. Que ta promesse du don du Saint-Esprit puisse s'accomplir dans chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre un petit sujet ce matin, mais ce sont des grandes choses, puisque ça vient de la Bible. C'est un sujet que nous connaissons, qui nous est familier. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Les 5 premiers versets. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est sûr que ces brebis ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand un étranger leur parle, elles disent directement, c'est inconnu pour moi ça. Parce que les brebis, elles sont équipées, elles reconnaissent sa voix. Ce soir, nous intitulerons le sujet « Il appelle par leur nom ceux qui lui appartiennent ». Et au verset 14, toujours dans Jean 10, il dit ceci « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Amen. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Appelé par le nom, c'est aussi ce que Jéhovah dit de Jacob. Ce qui signifie que Jéhovah, qui était aussi avec berger, dit David. David nous dit, l'Éternel est mon berger. N'est-ce pas? Alors, Jéhovah également, l'Éternel, dit à Jacob, je t'appelle par ton nom. Il ne nous appelle pas par des cris, pst, ou des sifflements, mais par nos noms. Il nous connaît. Dans Ésaïe 43, il dit ceci. Verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Amen. Tu es à moi, ce qui signifie tu m'appartiens. Effectivement, ces brebis lui appartiennent. Paul le confirme à Timothée dans 2 Timothée 2:19. Il dit d'abord à Timothée, quelque part, il dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, n'est-ce pas? Et pour dire à Timothée, ne t'occupe pas si les gens vont croire ou ne vont pas croire, il y a une chose qui est sûre, ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Alors, il dit à Timothée dans 2 Timothée 2:19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez ? En fait, Timothée était confronté à des frères, des gens qui se disaient frères, hein, qui aimaient beaucoup discuter, ou qui avaient des discours vains, inutiles, profanes. Ça, on voit ça au verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Aucune crainte, ils avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Ils y étaient à un moment donné, ils se sont détournés, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Il y a de ces personnes qui sont là dans ce but-là de renverser la foi de quelques-uns. Mais ceux qui le suivront, ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Parce que les brebis du Seigneur, étant équipés d'un filtre, ne suivront pas leur discours vain et profane. Mais ceux dont la foi sera renversée, ceux-là, ils sont destinés à cela. Alors, maintenant, les brebis qui lui appartiennent, comme tous les troupeaux aujourd'hui, souvent les troupeaux sont marqués, n'est-ce pas, du signe du propriétaire. Si des vaches ou des brebis viennent paître dans un même pâturage et qui appartiennent à des propriétaires différents, chaque propriétaire marque sa bête de son sceau. Et le Seigneur, pour son troupeau est aussi marqué de son sceau. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Et quand il dit, lui, je connais mes brebis, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que connaître quelqu'un, ce n'est pas juste le voir, ah, celui-là c'est un tel, mais connaître quelqu'un, c'est connaître ses problèmes. D'abord le connaître, connaître ses problèmes, n'est-ce pas? Parce que si je connais bien quelqu'un, on me demande comment il va, je vous dirai peut-être il va bien, je peux toujours vous demander, prier pour lui. Prie pour lui parce que il passe une situation difficile. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Et si Dieu vous a béni, je vous connais, je dis, ah, gloire à Dieu, loue Dieu parce que Dieu l'a béni, si vous demandez de ses nouvelles. Ça, c'est connaître quelqu'un. Il connaît vos problèmes. Il sait ce que vous endurez. Dans Apocalypse 2, il parle à l'église de Smyrne. Une église, ce sont ceux qui sont appelés hors du monde, pour le suivre, pour le servir, pour l'adorer. Et ce sont ses élus. Il les aime. Il dit, dans Jean 10, il dit qu'il aime ses brebis. Mais cette église passait une situation difficile. Verset 8, c'est l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction. Amen. Et je connais ta pauvreté. Il le sait. Bien que tu sois riche. Et les calomnies, je connais aussi les calomnies. Quand les gens vous calomnient, quand ils parlent mal de vous, vous faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il dit, je sais ça, mais je n'arrête pas la chose. On vous calomnie, c'est vrai, je le sais. Je le sais, mais je n'arrête pas la chose. Vous allez vous demander, est-ce que Dieu m'aime ? Dieu vous aime. L'amour de Dieu n'est pas semblable à l'amour humain. C'est l'amour agapao. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il sait qu'ils vont souffrir. Il les aime, mais va-t-il empêcher leur souffrance? Non. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Amen. Pourquoi? Afin que vous soyez éprouvés. C'est l'épreuve. Et vous aurez une tribulation en plus de 10 jours. Il demande, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que il ne les délivrera jamais de leur souffrance physique. Il leur demande de garder cela, mais de continuer à croire en lui. Il leur demande de rester fidèles jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Frère Abraham dit que l'amour de Dieu n'est pas ce que nous croyons. C'est un amour électif. Le fait que vous ne souffriez pas, le fait que vous n'ayez pas de tribulation n'est pas un signe suffisant que Dieu vous aime. Le fait que vous soyez passé à côté de pas mal de problèmes au lieu d'être plongé dedans n'est pas un signe que Dieu vous aime. Et le fait de passer par la souffrance, par des tribulations, par des afflictions, n'est pas non plus un signe que Dieu ne vous aime pas. Dites amen à ça. Comment être sûr que Dieu vous aime? Le frère dit, l'amour de Dieu est électif. Vous savez que Dieu vous aime si vous êtes un élu. Dans Romains 9, verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu dit qu'il a haï Ésaü. Et pourtant, Ésaü était dans l'abondance. Donc, l'abondance n'est pas un signe que Dieu vous aime. Et la pauvreté n'est pas un signe que Dieu ne vous aime pas. Ce que Dieu veut, que ce soit dans l'abondance ou dans la pauvreté, dans l'affliction ou dans la bonne santé, il veut que nous restions fidèles. Il n'enlève pas. Chez certains, il peut enlever, juste pour montrer qu'il est Dieu. Chez d'autres, il n'enlèvera pas. Comment cela? Ben, écoutez, Paul dit, enfin, Dieu dit, ici, au verset 15, dans Romains 9, il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il sait par où les brebis vont passer, c'est normal, parce que c'est lui qui les conduit. Amen. Ce grand désert affreux, infesté de scorpions et de serpents, selon Deutéronome 8, verset 15, verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier. » Vous pouvez être humilié et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Eh bien, ce grand désert affreux, c'est lui-même qui les y a conduits. Exode chapitre 13. C'est lui le berger, n'est-ce pas ? L'Éternel est mon berger. Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc il y avait moyen de prendre un chemin plus court. Ils y seraient arrivés, selon Moïse, dans Deutéronome 1er, après 11 jours. C'était 11 jours de marche. Mais ils ont fait 40 ans. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et dans Deutéronome 32, Dieu assume le fait que le désert dans lequel vous vous trouvez, que le désert que vous avez traversé, ce n'est pas Satan qui vous a fait passer par là. C'est lui. Satan, il ne vous éprouve pas. Il vous tente. Dieu confirme. Dans Deutéronome 32, verset 9, car la portion, la part, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. On parle ici de la traversée du désert. Comment Dieu voit cela ? Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul, il n'y avait personne d'autre à côté. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas Baal, c'est l'Éternel qui vous a conduit. Et c'est lui seul qui conduit les siens. Il sait par où elle passe, par le chemin du désert. Il n'enlève pas le désert. Et pourtant, il a la capacité de changer le désert en étang. Mais il le laisse comme tel. Il n'enlève pas les souffrances. Et il sait par où Jacob devra passer. Quand il dit à Jacob, tu m'appartiens. Il dit à Jacob, ça t'arrivera, dans Ésaïe 43. Si tu traverses les eaux, ne t'étonne pas. Amen. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouverez devant des eaux, ce n'est pas un obstacle. Vous les traverserez. Parce qu'il reste Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il ne dit pas que je vais assécher les eaux. Verset 2, Ésaïe 43. Si tu traverses les fleuves, malgré le courant, il t'amène à ça. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, ça arrivera. La flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi ? Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Éthiopie, l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et je ne me suis pas trompé en te faisant arriver devant la mer Rouge. C'était une étape nécessaire. Une étape nécessaire à ta foi. Je ne vous ai pas pris dans des grands hélicoptères jusqu'en terre promise. Je vous ai fait passer par le désert à dessein pour vous apprendre comment nourrir vos âmes, afin de savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est toujours dans Exode, dans Deutéronome 8 qui dit cela. Ésaïe 43, 4 dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Il confirme qu'il aime Jacob. Donc quand Jacob traversera les eaux, qu'il sache une chose, Dieu les aime, Dieu l'aime. Quand il traversera les fleuves, même à courant fort, Dieu l'aime. Lorsque ça vous arrivera, sachez que Dieu vous aime. Vous aurez certainement prié, vous aurez certainement hurlé, mais Dieu dit, je sais par où tu passes. Toi, sois fidèle jusqu'à la mort. La preuve que je t'aime, c'est que je t'ai élu. Il dit, j'ai créé Jacob pour ma gloire. Au verset 7. J'ai formé et je l'ai fait. Il sait par où vous allez passer. Demain, il sait. Il sait par où vous êtes passé aujourd'hui. Enfin, il sait par où vous passez aujourd'hui. Il sait par où vous êtes passé hier. La preuve qu'il vous aime, c'est qu'il vous a élu avant la fondation du monde. Amen. Et il dit, je vous connais. Je vous appelle par vos noms. C'est le titre. Il appelle par leur nom ceux qui lui appartiennent. Il ne confond pas les noms. S'il y a des homonymes, il ne les confondra pas. Il dira Simon, s'il y a plusieurs Simon, fils de Jonas. Amen. Parfois, il va même jusqu'à deux générations plus haut. Pour que si jamais les parents sont aussi homonymes, ben on passe chez ce que nous appelons les grands-parents, mais ça reste toujours des parents pour Dieu. Il dit à Jacob, ton père Isaac, ton père Abraham. Il ne dira jamais à Jacob, ton grand-père Abraham. Donc, il s'agit de Jacob, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Pas d'autre Jacob. Il ne s'agit pas de Rabbi Jacob, non. Il s'agit de Jacob, fils d'Abraham, et fils d'Isaac. Maintenant, ces brebis connues par Dieu, de nom, elles aussi le connaissent. Si Dieu connaît votre nom, vous aussi, vous connaîtrez le nom de Dieu. Il vous donnera ce nom. Pierre dit, Fabrice, ce que j'ai. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Jean dit ceci dans 1 Jean 5. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, dites amen à ça, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, ses brebis le connaissent. Toujours Jean, au chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2. Verset 3. Ses brebis savent ce qui l'attriste. On va y arriver. Mais d'abord, lisons 1 Jean, chapitre 2. Si nous gardons ses, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Dites amen à ça. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Si vous le connaissez, vous savez ce qui l'attriste. Comme ces enfants qui disent « Ah non, je ne peux pas faire ça. Mon père n'acceptera jamais que je fasse ça. » Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent leur père. Ma mère ne voudra jamais que je fasse telle chose. Bien, mon père voudra que je fasse ceci. Ou que je ne fasse pas, on connaît bien ses parents. On sait ce qui les fâche et ce qui les réjouit. On sait quand ils perdent leur calme. Parce que ce sont des gens qui nous ont élevés, qui nous ont aimés et qui nous aiment, qui nous ont conduits. On les a vus tout au long, parfois se fâcher, parfois ne pas se fâcher. On a appris à les connaître. Pour ceux qui ont eu la grâce de connaître leurs parents. Et c'est le cas pour les brebis. Elles savent ce qui est bon pour le berger. Elles savent qu'il ne faut pas s'écarter des sentiers battus. C'est le cas pour tous les fils d'Abraham. Ils savent qui est Dieu. Ils le connaissent. Ils peuvent prendre la forme d'un homme et venir à vous. Vous allez le reconnaître. parce que vous le connaissez. Pour une fois, je préfère la traduction de Jéhovah, des témoins de Jéhovah. Mais bon, je vais lire notre traduction. Dans Genèse 18, le Seigneur marchait sur la terre de manière tout à fait anonyme. Dites amen à ça. Sans escorte, sans motard devant ou derrière, sans sirène, comme un homme ordinaire. Et l'Éternel apparut à Abraham auprès des chênes de Mamré. Et Abraham était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux, regarda, et voici, trois hommes se tenaient près de lui. Et quand il le vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, dans la traduction du monde nouveau de Jéhovah, des témoins de Jéhovah, c'est écrit carrément Jéhovah. Ça veut dire que Abraham l'a reconnu, malgré qu'il avait un aspect tout à fait ordinaire. Et Esaïe pose la question. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Esaïe pose la question, selon l'a ainsi dit le Seigneur, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'a pas été reconnu par tout le monde. Mais ceux qui l'ont reconnu, ce sont les siens. Et Pierre dit, nous avons connu que tu es le Christ. Ces brebis le connaissent. Il y a eu d'autres qui ont essayé de prêcher aux Pierre et Jean et consorts. Eh bien non. Pierre, Jean, Nathanaël et tous, eh bien, ils l'ont suivi. Ils l'ont reconnu. C'est le cas de toutes ces brebis. Il nous connaît tellement bien qu'il sait pendant combien de temps on a souffert ou bien depuis combien de temps on souffre. Il le sait. Dans Luc 13, cette femme Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le fait de l'appeler femme ne veut pas dire qu'il ne la connaissait pas. Il connaissait certainement son nom. Vous voyez? Mais le chef de la synagogue, et il lui imposa les mains à l'instant et se redressa et glorifia Dieu. Elle n'a pas glorifié quelqu'un d'autre, sachant que c'est Dieu, lui est venu en aide. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Ce chef de la synagogue ne le connaissait pas. S'il avait connu, il aurait su, c'était maître du sabbat, qui était là. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, vous voyez, il savait qu'elle était une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Je ne sais pas si le chef de la synagogue savait que ça faisait 18 ans, mais lui, il le savait. Il connaît. Pourquoi ne l'a-t-il pas guéri pendant ces 18 ans-là? Lui seul sait. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Hein? La Samaritaine, quand Jésus la rencontre, Jésus la connaissait de bout en bout. Vous savez qui était cette femme? Il vient, il aborde. Il avait un aspect tout à fait ordinaire d'un juif. Alors, dans Jean 4, verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Certainement qu'ils s'habillaient différemment, les juifs et les samaritains. Mais c'était une semence divine. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » C'est lui montrer qu'il la connaissait. Car tu as eu 5 maris. Il la connaissait. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oui. Elle va finir par le reconnaître. C'est le Messie, c'est le Christ. Ça va? Abraham le connaissait. Donc, Abraham l'a appelé Jéhovah. Moïse le connaissait aussi. Parce que quand il demandait à Moïse de faire quelque chose de tout à fait hors de l'ordinaire, Moïse le faisait. Ne discutez pas. Le peuple a soif, frappe le rocher et il donnera de l'eau. Et Moïse obéit. Malgré toute la science des Égyptiens qu'il avait, il a tout simplement frappé le rocher. Devant les scientifiques de l'époque, Moïse, on l'aurait trouvé comme fou, frappant le rocher pour que le rocher donne à boire. Néanmoins, c'est ce qui est arrivé. Abraham savait également que malgré qu'il était usé en âge, usé de corps, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Abraham savait une chose, connaissant Dieu, il savait que Dieu était capable de le sortir de là. Romains chapitre 4. D'accomplir sa promesse. Ça, c'est connaître le Créateur. Vous savez de quoi il est capable. Verset 20. On va commencer. Romains 4, verset 18, pardon. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Vous savez, le nom qu'Abraham portait, Abraham, ça veut dire père d'une multitude, ça pouvait prêter à dérision ou pour les moqueurs. Père d'une multitude alors qu'il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a donné ce nom-là. D'Abraham à Abraham. Et il portait ce nom. Il a tant voulu avoir des enfants, il n'en avait pas. Jusqu'à sa vieillesse, où toute espérance pouvait être perdue. Jusqu'à ce que Dieu lui parle. Dieu lui dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Et il a cru Dieu. Verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Les Hébreux, lorsqu'ils étaient dans la fournaise ardente, avant qu'on ne les jette dans la fournaise ardente, ils connaissaient leur Dieu. En pleine épreuve, en pleine captivité, ils n'ont pas craint le roi. Daniel, chapitre 2. Alors, pardon, chapitre 3. Chapitre 3, verset 19. Verset 16, pour ne pas lire trop longtemps. Verset 16, on ne lira pas tout. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Lui répondre sur quoi ? Il leur a posé la question, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Eux, ils lui disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer s'il le désire. Ils pouvaient les laisser cramer, mais ils sont restés fidèles. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Pourquoi ils refusent de servir d'autres dieux? Parce qu'ils savent que ça, c'est mettre leur Dieu en colère. Une brebis qui suit un étranger, au lieu de suivre son berger, eh bien, le berger lui donnera quelques coups de bâton pour qu'elle apprenne à brebis, n'est-ce pas, pour qu'elle apprenne à suivre le berger, à la voix du berger. Amen. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Et pour les impressionner, Nebuchadnezzar va même chauffer la fournaise 7 fois plus. Ce n'était pas nécessaire. Déjà, la température habituelle, ça pouvait les tuer, les brûler. C'était une fournaise. Mais, tellement il était en colère, il a voulu qu'on chauffe un peu plus. Il pouvait chauffer ça 1000 fois plus, mais sont les bourreaux qui sont morts, les bourreaux ne connaissaient pas ce Dieu-là. Shadrach, Meshach, Abednego le connaissaient très bien. Nous savons ce qui attriste. En tant que brebis du Seigneur, nous devons savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Le connaissez-vous? Si vous êtes brebis, dites Amen. Si vous le connaissez, donc vous savez ce qui le réjouit. Si vous faites telle chose, ça va le réjouir. Alors, si vous savez que ça va le réjouir, faites-le. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a certainement un pari, un défi qui est lancé là-bas en haut. Et Dieu sait que vous resterez fidèles jusqu'à la mort. Il le sait. Oui. Et c'était le cas de l'église de Smyrne, parce qu'il dit à la fin, il dit à celui qui vaincra. Il y a eu des vainqueurs dans l'église de Smyrne. Dans Éphésiens 4, l'apôtre énumère les choses qui attristent Dieu. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on peut l'attrister en étant coupable des choses que nous allons lire? Par lesquelles vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Les brebis savent ça. Ils savent que si je suis coupable de ces choses, j'attristerai le Saint-Esprit. J'attristerai Dieu et je ne veux pas l'attrister. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et si vous arrivez à la fin de la route, comme avec Lazare, c'est sûr, il vous appellera par votre nom. Cela, si le Seigneur tarde, arrivera un jour. Le jour de la résurrection. Il vous appellera par votre nom. Si vous avez des homonymes dans le cimetière, il dira fils de, fille de. Il t'amène à ça. Et ainsi, vous saurez, là où vous serez, vous saurez que c'est vous qu'on appelle. C'est vous qu'il appelle. C'est vous qu'il va redresser, ressusciter. Vous avez confiance en cela? C'est qu'il nous donne confiance. Ses brebis le connaissent. Malgré toutes les menaces des souverains sacrificateurs, ceux qui le connaissaient l'ont suivi. Ils savaient, malgré qu'ils ont eu peur à un moment donné, on en a parlé jeudi, hier, ils ont eu peur à un moment donné, ils ont fui, mais on voyait quand même que il le connaissait très bien. Témoin, Cléopas et son ami et son compagnon, quand il dit un prophète puissant en œuvre et en parole. Il le connaissait. L'étape de la crucifixion, eux, ils n'ont pas vu ça. Mais il leur a dit que le Fils de l'homme devait passer par là. Quand il leur a dit cela, ça leur a donné confiance. Ils sont rentrés à Jérusalem. Dites amen à ça. Quand vous marcherez et que vous reconnaîtrez que Dieu est content, ben, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Vous le louerez, parce qu'il vous bénira. Mais si vous pensez que vous l'avez attristé, si vous le connaissez, faites comme le fils prodigue. Le fils prodigue dit, dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Je vais rentrer. Pour me faire pardonner, je vais lui demander de me traiter comme un de ses serviteurs. Non plus comme un de... Non, non. Mais il savait au fond de lui que son père l'accueillerait quand même. Ah, c'est connaissant mes parents. Tel que je connais. Jonas le connaissait. Jonas, il savait que s'il prêchait à Ninive la parole qui lui avait été donnée, il savait que les Ninivites allaient croire. Et si les Ninivites allaient croire, Dieu était riche en miséricorde, il allait leur pardonner. Et du coup, lui, il allait être considéré comme faux prophète. C'est pourquoi il a préféré aller à Tarsis. Vous voyez? Parce qu'il connaissait son Dieu. Si vous le connaissez, vous êtes heureux. Que Dieu vous bénisse. Prions, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, il y a un proverbe qui demande « Connais-tu le nom de son Fils ? Connais-tu son nom ?» C'est vrai que tes brebis, tu les connais, tu les appelles par leur nom. Et tes brebis t'appellent aussi par ton nom, car tu leur as donné ce nom merveilleux, qui est le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce nom a été donné afin que tout genou fléchira devant ce nom. Ce nom est tout puissant. Tes brebis savent qui tu es. Les autres ne savent pas que tu es le bon berger dont David parlait. Ils en ont même discuté, disant, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est toi, ô Dieu, notre berger. Sachant que seul tu conduis ton peuple, pas un Dieu étranger, cela nous donne de l'assurance pendant que nous marchons. Et tu as dit, tu nous connais tellement bien que tu as dit que tu ne laisseras aucune tentation nous arriver qui soit au-dessus de nos forces. Tu connais nos forces. Tu connais nos limites. Si tu nous laisses dans la fournaise, c'est parce que tu sais que c'est toi qui nous rends capables de rester fidèles tout en étant dans la fournaise. Si tu nous en sors, parce que tu sais que nous avons peut-être atteint la limite, ou bien tu veux tout simplement manifester ta gloire afin que les générations suivantes puissent aussi te connaître comme étant le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons chanté ici. Nous ne voulons pas le chanter juste parce que quelqu'un a composé le cantique, mais que nous puissions le réaliser dans nous. Et Jésus-Christ est affirmatif là-dessus. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Certainement, ceux-là te connaissent. Ceux-là qui te servent et ils te connaissent par ton nom. Et ils font tout en ton nom. Parce que tu leur as donné ce nom-là. Te bénissons, te bénissons ton saint nom. Te remercions de nous l'avoir fait connaître. Te remercions ce choix pour cette élection. Qui sommes-nous pour que tu aies pris soin de nous? Et pour cela, nous t'aimons également en retour. C'est ainsi que nous savons que tu nous aimes. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait. A encore conduit en ces lieux pour que nous puissions nous rappeler ces choses. C'est vrai, nous les lisons. Maintenant, la question est celle-ci. Te connaissons-nous suffisamment? Nous voulons faire comme Moïse ce soir. Nous voulons encore mieux te connaître. C'est vrai, nous avons vu les eaux changer en sang. Nous avons vu la création des grenouilles. Nous avons vu la mer rouge s'ouvrir. Mais nous avons même vu l'eau sortir du rocher. Nous voulons encore te connaître davantage. Fais-nous voir ta gloire, disait Moïse. Mets-nous dans la fente du rocher. Nous puissions te voir. C'est que nous disons, nous désirons te voir. Sois loué, sois exalté, sois adoré. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te demandons de nous accompagner chez nous et nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.